nous allons pouvoir attaquer. Je précise simplement que le 3 avril, ce sera effectivement Philippe Delorme qui va faire un séminaire sur une planète évadée. Et aujourd'hui, je vais continuer à parler, parce que j'avais déjà parlé l'an dernier et l'année précédente un petit peu des débuts de cette expérience. Je vais parler des essais entamés pour l'hypertélescope au massif de Lubaye. Alors, je m'excuse, ce sera un petit peu technique. Je vais essayer de ne pas être trop technique, d'autant que ce qui est technique, en général, quelques années après, c'est déjà périmé. Au collège, la tradition est d'enseigner la science en train de se faire, donc il faut bien parler un petit peu de choses qui sont rapidement périmées. Et pour le séminaire, nous aurons Jérôme Maillot qui va nous parler de la topographie fine pour l'application à l'hypertélescope. Et nous aurons aussi une présentation par Martine Roussel qui a réalisé un film sur le projet là-bas dans Lubaye et qui va nous projeter son film de 17 minutes. Nous aurons peut-être un peu de temps pour discuter un peu. Alors, en deux mots, j'en ai déjà beaucoup parlé et la plupart d'entre vous connaissent déjà. Bon, en gros, de quoi s'agit-il ? Il s'agit de faire un télescope géant d'une nouvelle génération, un prototype dans cette vallée des Alpes du Sud. En gros, la structure, c'est une sphère portant le plus possible de miroirs. L'idéal, ce serait que ce soit un seul miroir géant, mais ça, on ne sait pas le faire. Donc, on met le plus grand nombre possible de petits miroirs, disposé de façon très très précise sur cette forme sphérique, en essayant de trouver une vallée où la forme sphérique s'encastre le mieux possible, une vallée ou un cratère. Bon, les cratères, c'est rare, il y en a peu qui sont situés sous des climats favorables, ou qui soient éteints, il faut aussi qu'ils soient éteints, évidemment, le cratère. Beaucoup ont des lacs, enfin, si vous trouvez un beau cratère, ça nous intéresse, envoyez-nous des cartes postales, hein. Bon, enfin, on a cherché un peu partout, on n'a pas trouvé qu'il soit vraiment intéressant. Si, aux Canaries, il y a un immense cratère éteint, enfin supposé éteint, qui fait 5 km de diamètre, 2000 mètres de profondeur, mais il a une forme extrêmement irrégulière. Il a quand même un gros avantage, c'est qu'il y a déjà plusieurs télescopes qui sont installés sur le bord, donc ça fait des économies pour l'accès, etc. Mais il a un gros inconvénient, c'est que c'est un parc national, et que ce sera difficile de négocier d'y mettre des miroirs. Mais vous me direz, ceci aussi est un parc national. Le parc national des Mercantours, tous les coins de montagne un peu intéressants sont des parcs nationaux, en fait. Et là, le parc national du Mercantour, sa limite, c'est le torrent ici, et toute la partie UBAC ici appartient au parc. Mais le parc nous a autorisé à faire au moins des essais, à condition de prendre quelques précautions pour ne pas trop massacrer l'environnement. Bon, enfin bref, donc ce miroir géant en petits morceaux, en fixant des petits miroirs sur des tripodes ici sur le sol. Bon, et puis alors la sphère, l'hémisphère verte que vous voyez, c'est la sphère focale, c'est-à-dire c'est là-dessus que se forme l'image du ciel. Chaque étoile vient se réfléchir sur un morceau du grand miroir ici, et celui-ci fait converger les rayons vers un foyer qui se situe sur la sphère verte, qui se trouve à mi-chemin du centre de courbure. Le centre de courbure, c'est ici au milieu. Voilà. Bon, alors il suffit de mettre une caméra sur la sphère verte suspendue au câble bleu, là que vous voyez. Bon, là, il revient parce qu'il y a une poulie ici qui permet de... Il y a un treuil en bas qui permet de le baisser et de le soulever. Et si on arrive à maintenir cette caméra avec précision sur l'image de l'étoile formée par le miroir géant, eh bien, on peut espérer pouvoir exploiter cette image. On pourrait même imaginer avoir plusieurs caméras ayant chacune leur système de câbles pour les guider. Alors là, la caméra est guidée par les trois câbles rouges que vous voyez ici, qui sont pilotés par un ordinateur. Mais on pourrait en avoir plusieurs comme ça, et avoir plusieurs caméras, ce qui permettrait d'observer en même temps plusieurs parties du ciel, ce qui peut être intéressant. Actuellement, aucun des grands télescopes classiques ne peut faire ça. En général, ils sont pointés vers une étoile. Ils voient quelques étoiles autour, dans un tout petit champ, moins de 1 degré. Et là, on pourrait en principe pointer des régions très, très, très éloignées du ciel simultanément pour faire plus de travail et mieux rentabiliser. Alors, les radioastronomes qui avaient déjà fait le radiotélescope d'Arecibo sur l'île de Porto Rico, où il y a une cuvette naturelle de 330 mètres de diamètre qu'ils ont tapissée de tôle d'aluminium pour faire un immense miroir radio, selon le même principe dont nous nous sommes inspirés. À la différence que la tôle d'aluminium, c'est beaucoup moins cher que le miroir optique, et qu'ils ont pu se permettre de tapisser l'ensemble des 330 mètres de tôle d'aluminium. Et déjà, avec ce radiotélescope d'Arecibo, ils peuvent mettre plusieurs, ils le font, ils mettent plusieurs détecteurs sur la surface focale qui leur permettent de travailler ensemble sur des régions assez éloignées du ciel. Bien, alors... Alors évidemment, une question qu'il faut toujours se poser avant de se lancer dans un grand projet, c'est de savoir est-ce qu'il faut le faire, est-ce que ça ne va pas être trop lourd, est-ce que ça ne va pas devenir périmé le temps que ce soit construit. Il faut se rappeler que tout projet, tout gros projet, on a tendance à sous-estimer la difficulté et que ça peut devenir un piège. Parce qu'on est obligé d'aller au bout, d'aller jusqu'au bout. Alors, par exemple, nous avions dans notre équipe construit cet interféromètre, grand interféromètre à deux télescopes à l'observatoire de Calerne, dans les Alpes-Maritimes, dans les années 80. Bon, et c'était une vraie galère. On n'avait pas de moyens techniques suffisants, ni de support technique suffisant. Ça a pris 12 ans. Après 12 ans, ça finit par marcher. On a écrit un article qui est paru dans Nature. Et ça a quand même servi à stimuler l'Europe et les Américains pour faire la même chose en plus grand, au Chili et à Hawaï. Ça leur a montré que c'était possible. Mais dès que ça a été... Dès que ces projets au Chili et à Hawaï, beaucoup plus importants, ont commencé à démarrer, eh bien, nos chercheurs ont préféré observer là-bas que sur cet instrument. Et donc, on peut dire qu'en quelque sorte, il a été victime de son succès. Bon, alors... hypertélescope dans l'Ubaye, en un sens, c'est plus léger comme structure et comme innovation que celui-ci. Donc, ça pourrait aller plus rapide. Et c'est surtout beaucoup plus modulaire. Beaucoup plus modulaire. On peut commencer de façon très modeste avec quelques petits miroirs, vérifier que ça marche. Et si ça marche bien, à ce moment-là, on peut mettre 100, voire 1000 petits miroirs pour augmenter les performances. Les radioastronomes travaillent un petit peu comme ça pour leurs interféromètres. Ils commencent par mettre une antenne. Ils vérifient qu'elle marche bien, qu'elle ne se casse pas la figure, ce qui est arrivé d'ailleurs. Et puis ils en mettent une deuxième, et puis une troisième, et puis éventuellement 30, et puis maintenant ils parlent de 1000, et puis même de 10 000. Et ils gagnent énormément, et la puissance de l'instrument augmente énormément à mesure qu'ils ajoutent des antennes. Bien, alors, cet instrument, nous disons que là, le site des Alpes du Sud, là, ne permettrait pas d'avoir une ouverture effective, ce qu'on appelle la méta-ouverture, c'est-à-dire l'ensemble du groupe de miroirs qui sont effectivement utilisés sur telle étoile à tel instant. Bon, dans un premier temps, ce sera 57 mètres. Ça pourrait ensuite être augmenté jusqu'à 200 mètres environ, mais on ne pourra pas aller beaucoup plus loin parce que ça correspond, 200 mètres correspond à la courbure de la vallée. Et si on voulait faire beaucoup plus grand, ce serait mal... L'œuf ne serait pas proportionné au coquetier, si on peut dire. Euh, Et donc, si ça marche bien, nous serons tentés, et on a déjà commencé l'étude en détail, de faire la même chose en plus grand, peut-être dans l'Himalaya. J'en parlerai plus en détail la semaine prochaine. Et bien sûr, l'avenir à plus long terme, c'est clairement dans l'espace. Dans l'espace, il y a plus de place, il y a toutes sortes d'avantages, il n'y a pas d'atmosphère. Et on peut dans l'espace, en principe, on saurait déjà actuellement faire dans l'espace des systèmes comme ça gigantesques, atteignant par exemple 100 000 km de diamètre. Bon, alors, oui, alors après nous être beaucoup fatigués à construire ça, on s'était dit ça, ça va être le précurseur pour faire ça. C'est-à-dire le même, mais avec non pas deux télescopes. Là, c'était deux télescopes de 1,50 m. Et on avait inventé des montures spéciales très rigides pour ça. Et on se disait que si ça marche bien, on pourrait en mettre un certain nombre sur une grande plateforme, par exemple de 1 km², et rassembler tous les rayons de lumière de l'étoile dans une station centrale pour faire interférer la lumière et obtenir un peu l'équivalent, enfin la même résolution en principe que donnerait une méta-ouverture de 1 km ou une ouverture géante de 1 km. Bon, mais pour arriver à faire marcher ce genre de choses, il faut arriver à mettre en phase tous les rayons, et c'est-à-dire qu'il faut que toutes les longueurs de propagation de la lumière depuis l'étoile jusqu'à chaque télescope et jusqu'à la caméra qui est dans la partie centrale ici, il faut que toutes ces longueurs de trajet soient égales à une fraction de micron près. Bon, ce qui n'est pas une mince affaire. Et en particulier là, comme l'étoile bouge dans le ciel pendant la nuit, eh bien, il faut que la géométrie se déforme. Il faut, par exemple, si on met tous les télescopes le long d'une ellipse dont la partie centrale ici occupe un foyer, on peut démontrer que si cette ellipse se déforme comme il faut pendant la nuit, à ce moment-là, la condition d'égalité des chemins optiques est maintenue. On peut dire que l'ellipse est un peu une section plane par le plan de la plateforme d'un paraboloïde géant qui contiendrait tous les télescopes et qui a la propriété de conserver les distances depuis l'étoile jusqu'au foyer. Bon, et l'autre solution consiste à avoir des systèmes de miroirs mobiles sur des chariots qui accompagnent tout doucement, micron par micron, le déplacement de l'étoile pour maintenir la condition, ce qu'on appelle des lignes à retard optiques. Mais ça coûte très cher et c'est très encombrant et ça limite le nombre d'ouvertures qu'on pourrait utiliser. Bon, et puis alors, ayant exploré ces possibilités, c'est à ce moment-là qu'on s'est aperçu bien tard qu'il y avait une autre voie possible, qui est la voie des hypertélescopes, et qui reprend donc un petit peu le principe du radiotélescope d'Arecibo, et notamment qui permet de densifier l'ouverture pour augmenter la luminosité, et même peut-être d'avoir une étoile guide laser pour mettre en phase sur des objets faibles. Bon, ce principe des hypertélescopes, donc c'est un télescope géant à ouverture diluée et à pupille densifiée. C'est comme ça qu'on le définit. Et il y a différentes façons de le construire, dont l'une qu'on appelle Carlina, qui est celle-ci, en l'honneur de cette fleur qui pousse loin de là. Je me trompe d'ordinateur. Bon, alors. Il y a différentes façons de construire ce genre d'hypertélescope. L'une est analogue à Arecibo, c'est-à-dire un miroir sphérique. Un inconvénient classique des miroirs sphériques, c'est ce qu'on appelle l'aberration sphérique. Alors, tout le monde a vu ce genre de choses en regardant un bol de lait éclairé par le soleil le matin. Là, ce n'est pas un bol de lait, c'est un anneau en aluminium dont la face interne cylindrique fait un peu comme un miroir, réfléchit la lumière, et vous avez le soleil pas très haut sur l'horizon, et vous voyez que la feuille de papier qui est en dessous reçoit cette courbe de concentration de lumière. Tous les rayons du soleil, voilà les rayons du soleil en jaune, ils sont réfléchis et ils sont tous tangents à cette courbe qu'on appelle la caustique. Et les rayons du soleil qui arrivent près du foyer, qui arrivent presque dans l'axe, ici, viennent se croiser ici au bout de la pointe de la caustique qu'on appelle le foyer paraxial. Bon, alors ça c'est le défaut du miroir sphérique. Si le miroir était parfait, tous les rayons se croiseraient bien tous au même endroit au foyer paraxial. Alors, le miroir sphérique ne peut pas faire ça. Par contre, le miroir parabolique, il le fait tout naturellement. C'est l'avantage du miroir parabolique. Par contre, le miroir parabolique a un gros inconvénient, c'est que si l'étoile est un tout petit peu hors de l'axe, une parabole, c'est un axe de révolution, un axe de symétrie, une paraboloïde, c'est un axe de révolution. Si l'étoile est un petit peu en dehors de la direction de l'axe, à ce moment-là, les rayons ne se croisent plus bien. Le foyer est dégradé, il y a ce qu'on appelle de l'aberration de coma. Alors là, pour le miroir sphérique, ce défaut de l'image, on appelle ça l'aberration sphérique. Si on met un écran ici, juste au foyer paraxial, vous voyez sur cet écran un petit point brillant dû aux rayons paraxiaux, c'est-à-dire ces rayons-là proches de l'axe, et vous voyez un halo autour dû aux rayons marginaux, c'est-à-dire ces rayons-là qui viennent se croiser loin de... qui vient se croiser pas là où il faut. Bon, alors il y a une vieille controverse en astronomie pour savoir s'il vaut mieux utiliser des miroirs sphériques ou paraboliques. Il y a les deux écoles, chacun a ses avantages et ses inconvénients. Dans le cadre d'hypertélescope, ce qui est bien, c'est qu'on peut faire construire ça avec un miroir sphérique, mais si on a mis trois petits moteurs sur chaque support de miroir, il suffira d'appuyer sur un bouton de l'ordinateur pour qu'en une minute, le miroir sphérique se transforme en miroir parabolique. Il suffit pour ça que chaque petit miroir soit un tout petit peu incliné et un petit peu soulevé ou abaissé pour coller exactement sur la surface parabolique. Alors, si ces petits miroirs sont trop grands, il faudra en plus les déformer. Il ne suffira pas de les monter et descendre ou les incliner, il faudra les déformer légèrement en les faisant fléchir, par exemple, ce qui nécessitera non pas trois moteurs, mais davantage de moteurs, ce qu'on appelle l'optique active. Bon, mais comme il y a des raisons théoriques pour les hypertélescopes d'utiliser de préférence des miroirs petits et nombreux, qui échantillonnent mieux l'onde, donnent plus d'informations, eh bien, cette perspective d'avoir au choix un miroir parabolique ou sphérique qu'on peut transformer en appuyant sur un bouton semble particulièrement intéressante. Bon, alors, il faut que je réexplique très rapidement ce que c'est qu'un hypertélescope. Qu'est-ce que c'est qu'une pupille densifiée ? Bon, imaginez que vous ayez un grand nombre de miroirs, de petits miroirs disposés comme ça. Là, c'est disposé de façon périodique, mais ça peut aussi être disposé de façon au hasard. Vu de l'étoile, ça peut ressembler à ça. Et densifier la pupille, ça veut dire que vu de la caméra, ça va ressembler à ça. C'est-à-dire que chaque sous-ouverture, sous-pupille, comme on dit, apparaîtra plus grosse par rapport à l'espacement entre les sous-ouvertures. Bon, alors pourquoi faire ça ? Parce que ça rend l'image plus lumineuse. Par exemple, si vous densifiez d'un facteur 1000, votre image sera un million de fois plus lumineuse. Et comme en optique, on est toujours à court, en astronomie, on est toujours à court de lumière, et ben, c'est toujours bon à prendre. Bon, je rappelle en gros le principe pour densifier la pupille. Bon, ça symbolise un miroir géant en petits morceaux. En fait, c'est une lentille en petits morceaux. Ça revient au même. Vous pouvez prendre une lentille et la découper en petits morceaux et replacer les morceaux à peu près à leur place d'origine. Bon, et à ce moment-là, vous aurez les rayons qui viennent se croiser au foyer de la lentille préexistante. Et si vous avez une seule étoile, l'image que vous aurez ressemblera à ça, avec un pic brillant au centre et des pics secondaires latéraux périodiques, périodiques parce que la disposition de l'ouverture est périodique. Si la disposition de l'ouverture n'était pas périodique, c'était aléatoire par exemple, on n'aurait pas ces pics régulièrement disposés, on aurait ce qu'on appelle des tavelures ou speckles, c'est-à-dire un grand nombre de taches irrégulières d'apparence aléatoire et dont la forme dépendrait de la longueur d'onde. Bon, alors, le principe de densifier la pupille, ça consiste simplement à reprendre l'image ici avec deux lentilles. On réimage ça à travers deux lentilles, en quelque sorte. Et entre les deux, là où la lumière est censée être parallèle, on met des petites lunettes de Galilée à l'envers. Vous savez que Galilée avait été le premier à utiliser une lunette pour regarder le ciel. Il avait fait en quelques nuits des découvertes extraordinaires, avec une lunette très modeste, hein, qui grossissait moins qu'une paire de jumelles qu'on achète chez le marchand du coin aujourd'hui. Et que sa lunette, c'était simplement une grosse lentille convergente et une petite lentille divergente près de l'œil, l'oculaire. Bon, là, même principe, mais on la met à l'envers. On la met à l'envers, et ça a pour propriété, à ce moment-là, d'élargir, d'écarter les rayons, et que le faisceau de lumière qui ressort par ce bout-là est plus large que celui qui rentre par ce bout-là. Bon, mais l'onde lumineuse qui était plane à l'entrée, si tout est bien réglé au point de vue phase, se retrouve également plane à la sortie. Et donc, vous avez une interférence constructive sur le foyer, mais vous constatez que tous les pics de lumière diffractés par les petites ouvertures, ici, on a une espèce de halo de lumière diffractée par les petites ouvertures, et bien ce halo est rétréci du fait qu'on a élargi ici. Et du coup, c'est pour ça que la lumière est davantage concentrée, notamment dans le pic central et dans les premiers pics. On peut complètement effacer ces pics-là en densifiant encore un peu plus. Bon, alors ça marche encore si l'étoile est hors de l'axe, c'est-à-dire vous prenez l'étoile, vous la déplacez un tout petit peu. Ou alors vous tournez tout l'ensemble, ici ça revient au même, et vous regardez ce qui se passe. Et bien vous apercevez que l'image de l'étoile, elle aussi se déplace un tout petit peu, mais vous apercevez que si vous allez trop loin, ça ne marche plus, elle s'éteint. Là on voit par exemple, on arrive au bord de la zone permise, si on va plus loin, l'étoile va s'éteindre, et par contre, les pics qui restent ici, eux, vont se renforcer parce que l'énergie se conserve. L'énergie qu'on va perdre ici, on va la retrouver dans d'autres pics par ici, où elle est d'ailleurs plus ou moins récupérable. Bon, alors je ne rentre pas dans les détails, mais on comprend facilement ces propriétés. Ah, voilà la diapo perdue. Bon, les types d'architecture pour les hypertélescopes. Il y a différentes façons de faire ce principe de pupille densifiée. Bon, par exemple, on peut revenir à cette idée que nous avions eue de faire un système qu'on appelait Optical Very Large Array, par analogie avec le Very Large Array des radioastronomes au Nouveau-Mexique, qui avait 27 grandes antennes à l'époque. Alors, on envisageait de mettre 27 télescopes d'un mètre 50 sur une plateforme, d'un kilomètre carré, et de balader ces télescopes pour les garder sur une ellipse et avoir les chemins optiques équilibrés. Bon, donc ça, c'est une option possible. Une autre serait de faire un paraboloïde dilué, un miroir paraboloïde dilué. Alors, on avait regardé la possibilité de faire dans l'Antarctique, au dôme C, un espèce de filet portant des miroirs suspendu à des ballons et pilotable par des câbles et inclinable pour pouvoir suivre une étoile. Bon, mais c'est pas au point. Et puis en plus, les gens de l'Antarctique nous ont découragés en nous disant qu'ils avaient une énorme centrale thermique qui faisait une fumée noire et qui pollue tout l'Antarctique. Et on s'est dit que si cette fumée noire tombait sur nos miroirs, ce serait pas bon. Alors, l'autre solution serait analogue à Arecibo, c'est-à-dire trouver un cratère ou une cuvette ou une vallée, la tapisser de petits miroirs représentés ici, en mettant le plus possible. Enfin, déjà, si on n'a que deux, ça marche déjà un peu. On peut commencer petit. suspendre à des câbles une caméra par ici. Voilà. Bon, donc ça, c'est le principe de Arecibo. Mais comme à Arecibo, il faut rajouter ici des petits miroirs pour corriger le problème de l'aberration sphérique. Bon. Mais on peut faire un peu différemment. Je disais qu'il suffit d'appuyer sur un bouton pour transformer cette partie du miroir sphérique en parabolique. Pour ça, il suffit de les déplacer un tout petit peu en hauteur et de les incliner très légèrement pour qu'ils viennent coller à la parabole plutôt qu'à la sphère. Seule chose, c'est que quand l'étoile se déplace dans le ciel, eh bien, il faut que cette déformation parabolique se déplace avec. Bon, donc il faut faire une espèce de tsunami optique, si on peut dire, c'est-à-dire une espèce d'onde de déformation qui avance tout doucement sur le miroir piloté par l'ordinateur. Bon, alors ça, c'est une variante de la solution sphérique qu'on essaiera sans doute un jour ou l'autre et qui peut être avantageuse dans certains cas. Elle a l'inconvénient qu'on ne pourra plus, du coup, mettre plusieurs caméras pour observer à la fois plusieurs étoiles dans des directions très différentes. À moins que les faisceaux soient vraiment séparés. Mais disons, si la deuxième étoile est assez proche de la première, ça ne pourra pas être parabolique à la fois pour les deux. Bon, alors le nom de Carlina, de cette fleur, alors cette fleur a une centaine de petites fleurs dans une grande fleur et encastrée dans le sol, on l'utilise pour décrire cette approche-là. Alors une dernière possibilité, c'est avec des fibres optiques. Vous savez que les fibres optiques, c'est magique, ça ressemble à un cheveu qui peut faire 1000 km de long. On fait de la rentrée de la lumière par un bout, elle ressort par l'autre. Bon, alors si vous en mettez, alors ça sert surtout pour les communications, laser, etc. Il y en a à travers les océans. Si vous mettez un certain nombre de fibres comme ça, disposées comme les tentacules d'une pieuvre, et que chacune reçoit la lumière d'une lentille visant une étoile, eh bien, vous pouvez recueillir à l'autre bout tous les rayons de lumière de toutes les étoiles, et puis vous pouvez réunir vos fibres là en les serrant le plus possible, et puis vous pouvez mettre un peu plus loin une caméra. Et miracle, alors voilà, agrandi, donc la sortie des fibres, ben ça fait comme une pupille densifiée, parce que vu du ciel, tous les petits points de capture de la lumière sont très étalés, mais vu de la caméra, ils sont très rapprochés. Et si vous arrivez à tout mettre en phase, ce qui n'est pas très facile d'ailleurs à travers des fibres, parce qu'elles ne sont pas très homogènes et à la moindre variation de température, la vitesse de lumière change et la propagation change. Si vous arrivez à tout mettre en phase, eh ben vous voyez apparaître, miracle ici, un pic brillant sur l'axe. Et puis si vous avez une deuxième étoile à côté, ben vous verrez apparaître un deuxième pic à côté et un troisième si vous avez une troisième étoile. Donc vous avez une image. Et là, ça marche comme l'hypertélescope. C'est une forme d'hypertélescope. Ça a pu être vérifié en laboratoire. Avec mise en phase grâce à de l'optique adaptative par les collègues Denis Mourard, Patru Olivier et Nassima Tarmoul. D'autres gens avaient proposé ce genre de système pour faire de la coronographie. Bon, alors je vous disais que ce qu'on fait dans l'UBAI, c'est dans l'idée de faire plus grand ailleurs. Alors on a une collègue indienne qui a passé un an avec nous dans l'UBAI nous a signalé que dans l'Himalaya, dans son pays, il y a une magnifique vallée à 4000 mètres où il y a une route d'accès et où il y a des crêtes à 6000 mètres, que voilà, s'il y en a parmi vous qui ont envie de se geler les pieds, c'est un bon endroit. Et la vallée est suffisamment grande pour pouvoir, en principe, y installer une méta-ouverture qui ferait un kilomètre ou peut-être même un kilomètre deux. Bon. Et la vallée est orientée est-ouest, ce qui est favorable parce que ça veut dire que quand l'étoile se déplace dans le ciel, On n'est pas trop gêné si on la prend une demi-heure avant le transit méridien, jusqu'à une demi-heure après. Ça fait une heure d'observation, on n'est pas trop gêné par le fait que la vallée soit cylindrique au lieu d'être sphérique. Alors revenons plus près de chez nous. Dans les Alpes du Sud, vous avez ce massif de Lubaï, entre Barcelonnette et le col de la Cayolle, qui n'est pas très loin de nos bases de l'Observatoire de Nice et de Calerne. Et grâce à Google Earth, on a pu trouver cette haute vallée. Là, l'altitude, c'est à peu près 2100 mètres dans le fond. Et dont la forme, la courbure est à peu près régulière et relativement favorable pour encastrer un hypertélescope. Et en plus, il y a une route d'accès, une route non goudronnée, mais une route tout de même, qui monte là le long, et ce qui facilite beaucoup les opérations. Donc, voilà la vue Google Earth de la vallée, et voilà comment les miroirs pourraient être disposés, avec un câble de 800 mètres de long supportant la caméra, câble en Kevlar de 6 mm, et puis trois petits câbles plus fins qui sont pilotés par un ordinateur, des petits treuils pilotés par un ordinateur, qui permettent de déplacer la caméra comme on veut, avec une précision de l'ordre de 1 mm, la caméra étant à 100 mètres au-dessus des miroirs, ici. Bon, et voilà à peu près à l'échelle la dimension de la première méta-ouverture de 57 mètres, et celle de 200 mètres qu'on espère faire plus tard, ferait quelque chose comme ça. La même chose vue d'en haut, sur le site Bing, Microsoft Bing, concurrent de Google Earth, qui donne une résolution un petit peu meilleure dans cette zone-là. Voilà le diamètre de 57 mètres et celui de 200 mètres. Voilà la route, voilà les mélèzes, voilà le couloir d'avalanche qui menace partie du système. Alors, pour l'instant, il y a très peu de miroirs, il n'y en a que deux, à vrai dire, juste pour faire des essais, mais on espère en rajouter quelques-uns au printemps. Et voilà la nacelle suspendue à son câble, et voilà le petit télescope qui nous permet de récupérer le foyer coudé. Alors, quelques précisions. Bon. Alors, on trouve sur Géoportail toutes sortes de lignes de niveau qui permettent de préciser un peu les choses. Alors, si vous superposez un calque avec les lignes de niveau d'une hémisphère, et vous regardez les intersections entre les lignes de niveau IGN et les lignes de niveau du calque, ça vous indique tous les bons endroits où vous pouvez mettre des miroirs qui seront à la fois sur la sphère et sur le terrain. Bon, et voilà quelques autres détails qu'a représenté Martine Roussel, qui va nous montrer ça dans son film tout à l'heure, avec plus de détails, donc je lui laisserai le soin de l'expliquer. Voilà le laboratoire. Et voilà un treuil, un autre. Alors, les miroirs, alors voilà l'un des miroirs. Ce sont des petits miroirs de 15 cm en verre ordinaire qui coûtent 30 dollars pièce. Enfin, le verre coûte 30 dollars. Ensuite, il faut le polir. Ça coûte beaucoup plus cher. Enfin, pas 30 dollars, 30 euros. Ça coûte plus cher, mais nous, il se trouve que nous avons dans l'équipe un atelier de polissage avec un expert qui fait ça. Et alors, ces miroirs sont presque plans. Ils sont sphériques, mais comme le rayon de courbure est 200 mètres, ça se voit à peine. La flèche est de 17 microns seulement. et il faut qu'il soit tenu de façon extrêmement rigide. Pas de vibration et, si possible, pas de dilatation du pied. Alors, pour l'instant, il est en acier, le pied, donc il se dilate. Donc, la nuit, on peut prévoir qu'il va se refroidir et que le miroir va baisser de 100 microns, quelque chose comme ça, ce qui est trop. Mais on a prévu de rajouter des tiges en carbone qui peuvent avoir une dilatation nulle et corriger ce problème. Puis en plus, on pourra servir avec des petits moteurs. Et ceci est une petite lunette amovible qui sert à ajuster le miroir, à régler son inclinaison dans les deux sens et sa hauteur. Il faut régler ces trois paramètres pour pouvoir faire que le miroir soit exactement sur la sphère théorique où se trouvent les autres miroirs. Alors, comment faire tout ça? Donc voilà en pointillé la sphère théorique en question. On peut supposer que chaque pointillé représente un miroir. La sphère focale à mi-chemin du centre de courbure, ici. La lumière de l'étoile en jaune, focalisée ici. Et ici, en rouge, vous avez un laser qui éclaire un petit miroir, gros comme ça, situé deux fois plus haut que la caméra au centre de courbure, C1. Bon, et ce petit miroir est convexe et il renvoie un faisceau divergent qui éclaire tout le reste à partir d'un point virtuel qui se trouve un peu au-dessus, ici, derrière. Donc ça, tout se passe un peu comme si, au lieu d'avoir un miroir ici, on mettait directement un laser ici, un point lumineux ici qui éclaire tout le reste, ça revient au même. Enfin, c'est plus commode de mettre le laser en bas. Bon, il reste juste à trouver de quoi porter ce miroir là-haut. Alors, on peut mettre un deuxième câble plus haut pour le porter, mais ce n'est pas très commode. On peut aussi envoyer un hélicoptère jouet. Vous savez, maintenant, vous achetez chez le marchand du coin un petit hélicoptère jouet. Le seul problème, c'est qu'il ne reste que 10 minutes en l'air parce que les batteries au lithium n'ont pas cette capacité. Donc, ce n'est pas très commode. Bon, et alors, si on arrive à faire ça, eh bien, une propriété d'un miroir sphérique, même en petits morceaux, c'est que les rayons reviennent sur eux-mêmes. Les rayons qui arrivent ici, s'ils viennent exactement du centre de la sphère, ils reviennent sur eux-mêmes, précisément, et du coup, ils repartent et ils retombent dans le laser. Ou ils tombent, ou si c'est un tout petit peu de travers, si on déplace un tout petit peu le laser, par exemple, ils tombent à côté du laser sur un écran qu'on peut mettre là. Bon. Et alors, c'est un moyen de vérifier que tous les petits miroirs sont concentriques, parce que s'il y en a un qui est un petit peu de travers, par exemple, eh bien son spot de retour va se trouver un petit peu décalé par rapport aux autres. Normalement, ils devraient être tous exactement superposés, mais le moindre décalage permet de corriger les erreurs d'inclinaison des miroirs. Bon, et puis alors, c'est pas tout, on veut régler les inclinaisons, voilà un miroir, on veut régler l'inclinaison, mais on veut aussi régler ce qu'on appelle le piston, c'est-à-dire la hauteur du miroir, parce qu'on veut que ce soit sur la même sphère. Bon, et idéalement, avec une précision de l'ordre du micron. C'est pas la peine d'essayer de faire mieux que le micron, parce que l'atmosphère introduit elle-même des différences de propagation optique de l'ordre du micron, et qui seront corrigées par l'optique adaptative. Bon, alors, un moyen simple de vérifier cette propagation au micron, c'est de regarder les interférences entre les rayons qui reviennent de plusieurs miroirs. Par exemple, vous regardez l'interférence entre le rayon qui vient de ce miroir-là et celle qui revient de ce miroir-là. Vous voyez des franges d'interférence ici que vous pouvez regarder en lumière blanche. Vous pouvez les centrer en jouant sur les vis micrométriques qui portent ces miroirs. Et ça vous permet en principe de cosphériser, comme on dit, l'ensemble à un micron près. Bon, alors ça a été testé à l'Observatoire de Haute-Provence par des collègues qui ont fait un petit prototype d'hypertélescope. Ils ont fait un montage pour ça et ils ont confirmé qu'ils arrivaient à régler tout ça au micron. Alors, ce petit viseur qu'on peut mettre sur un miroir, et qui, alors lui, il peut servir à positionner la nacelle. Quand vous voulez viser une étoile, il faut amener la nacelle exactement au bon endroit où arrive, où se forme l'image de l'étoile focalisée par le miroir. Bon, alors, pour cela, nous avons fait un viseur. Là, vous voyez, une espèce de demi-corde jumelle, là. Vous avez un miroir ici. En fait, ce n'est pas un miroir, c'est ce qu'on appelle un trièdre, un trirectangle ou un coin de cube. Ça sert souvent en optique. C'est trois miroirs perpendiculaires. En fait, là, il y en a deux. Il y a deux miroirs perpendiculaires. Et le troisième, il n'est pas métallisé. Il est semi-transparent. Bon, je vais expliquer pourquoi. Bon, enfin, bref, en visant avec ce viseur, la nacelle vue à travers ce miroir et à travers le reflet sur le miroir. Là, c'est le miroir, le morceau de miroir géant là, qui est là, porté par le tripode. Alors, vous voyez dans l'oculaire, vous voyez deux points lumineux, vous voyez l'étoile et vous voyez la petite lampe qui est fixée sur la nacelle et qui sert de repère. Et le jeu consiste à ajuster les vis qui portent le miroir, qui sont dessous, là. Je crois que c'en est une qu'on voit là. Vous ajustez ces trois vis finement pour superposer exactement les deux points brillants. Il y en a un qui est blanc, c'est l'étoile, et l'autre qui est rouge, c'est la LED de la nacelle. Vous les superposez exactement, et à ce moment-là, vous le faites ensuite en déplaçant la nacelle, et quand c'est superposé, c'est que la nacelle est exactement au bon endroit où elle reçoit l'image de l'étoile. Bon, et puis alors vous avez le foyer coudé. Qu'est-ce que c'est que le foyer coudé ? Alors voilà encore nos miroirs, voilà encore la surface focale avec la nacelle. Bon, alors, l'image, les rayons de l'étoile sont en vert, l'image de l'étoile vient se focaliser sur la nacelle. Alors, on pourrait mettre une caméra, on pourrait mettre la caméra science, ce qu'on appelle la caméra science, c'est-à-dire celle qui est chargée de récolter les données sur l'étoile. On pourrait la mettre sur la nacelle. Bon, mais on ne l'a pas encore fait parce qu'on n'a pas encore trouvé le moyen d'avoir une bonne communication radio. Un bon transfert de données entre la nacelle et le sol, et réciproquement. Le Wi-Fi, ça ne marche pas, c'est trop loin. enfin, c'est un problème qui se résoudra, mais enfin, pour l'instant, il n'est pas résolu. Et on a préféré mettre sur la nacelle un petit miroir de renvoi qui nous renvoie la lumière de l'étoile ici. Alors, pourquoi ici ? Parce que ici, c'est l'intersection de l'axe polaire qui passe par le centre de courbure avec le sol, et que si on met là un petit télescope, et qu'on dit à ce petit télescope de suivre la nacelle comme si c'était une étoile, on lui fait croire que c'est une étoile. Vous savez, les petits télescopes modernes, maintenant, ils sont automatiques, on appuie sur un bouton, on lui dit quelle étoile on veut pointer, et il suit automatiquement tout seul avec son microprocesseur. Donc, ça suffit de rajouter dans le catalogue du télescope une étoile qui s'appelle nacelle, on appuie sur le bouton, et le télescope suit le mouvement de la nacelle au cours de la nuit, et donc, en principe, récupère la lumière du rayon vert qui, elle aussi, reste constamment pointée vers ce point. Et alors, voilà le télescope en question, et voilà nos collègues Rémi et Paul, qui a fait le séminaire la dernière fois, qui sont en train de chercher des erreurs dans le logiciel de pilotage et de transfert de données. Alors, il y a un seul problème, enfin, si avec ça, il y a l'un des problèmes, c'est que cet endroit-là, ici, est à peu près dans le couloir d'avalanche, dans l'un des couloirs d'avalanche qui descendent du sommet. Alors, c'est pas un problème en été, mais quand on observera en hiver, ça pourrait être un problème. Alors, cette géométrie de cardinal est intéressante parce qu'elle est, elle est, elle simplifie beaucoup l'optique et la mécanique par rapport aux anciens interféromètres que nous avions construits, qui sont beaucoup plus compliqués. Bon, mais elle a un problème, c'est que la pupille dérive. Qu'est-ce que ça veut dire, ça ? Ça veut dire que voilà le miroir géant, voilà le foyer. Là, on a supposé que l'étoile était au zénith. Et on met ici une petite lentille qui nous projette une image du miroir géant par ici. Bon, et on veut que cette projection n'est pas du tout de... Alors, cette projection, elle bouge. Elle bouge pendant la nuit, parce que comme l'étoile se déplace sur le ciel, la nacelle est obligée de se déplacer pour suivre. Du coup, la partie utilisée, exploitée du miroir aimant, dérive par rapport au faisceau, ce qui revient à dire qu'on a ici une image du miroir aimant qui dérive, et il faut donc qu'il y ait quelque chose qui bouge en nacelle. On met une espèce de calotte sphérique sur laquelle se forme rigoureusement une image du miroir aimant, mais il faut que cette calotte s'incline tout doucement pendant la nuit. Donc il faut un mécanisme pour ça. Ça a déjà été un peu testé à l'Observatoire de Haute-Provence sur le prototype. Et une solution, c'est d'avoir une espèce de pendule qui oriente le densifieur de pupille. Alors, le densifieur de pupille est situé sur cette chose jaune, cette espèce de calotte jaune. On voit des petits trucs qui dépassent, qui sont les petites lunettes de Galilée à l'envers. Et il faut que ce truc-là tourne tout doucement autour de ce centre mécanique pendant l'observation. Alors, ça pourrait se faire en rajoutant des moteurs. Dans un premier temps, on peut déjà mettre simplement des contrepoids qui font pendule, et ça suffit presque. Alors, ensuite, il faut pouvoir vérifier, il faut que l'ordinateur puisse vérifier que c'est bien, que ça se passe bien. Bon, une façon de le faire, c'est de mettre ici sur la calotte un petit senseur optique, qui est par exemple 4 petites facettes de miroir légèrement inclinées, formant une espèce de pyramide aplatie, selon un système classique en optique, et renvoyant sur une caméra, et selon renvoyant l'image d'un laser. On a un laser au sol, son image se forme ici, et si c'est un peu de travers, ça se forme sur l'une ou l'autre facette, et ça va sur la caméra, et la caméra dit à l'ordinateur qu'il faut faire des corrections dans un sens ou dans l'autre. Bon, il ne faut pas que je rentre trop dans les détails techniques. Enfin, voilà le gadget en question avec les facettes inclinées, là. Et vous avez une caméra ici, et la lumière tombe sur l'une ou l'autre des parties pour donner l'information de façon précise à l'ordinateur. Bien, alors... Un point dur, c'est la mise en phase. Ça concerne tous les interféromètres et tous les télescopes. C'est avec les grands télescopes classiques, jusqu'à il y a une dizaine d'années, n'étaient pas en phase, à cause, même s'ils étaient parfaits, optiquement parfaits, ils n'étaient pas en phase parce que l'atmosphère se chargeait de déformer l'onde lumineuse à cause des bulles d'air chaud qu'il y a dans l'atmosphère qui ralentissent ou accélèrent la lumière. Et que c'est seulement depuis une dizaine d'années qu'on a trouvé le moyen mirobolant de remettre en phase des morceaux de l'onde grâce à un miroir déformable qu'on déforme en un millième de seconde pour corriger ses défauts. C'est ce qu'on appelle l'optique adaptative. Et ça permet de faire d'immenses progrès en astronomie. Bon, et le même problème se pose pour nous. On espère avoir l'optique adaptative. Alors, voilà déjà une petite simulation qui montre à quel point c'est affreux. Vous avez ici une centaine de petits miroirs de l'ouverture de l'hypertélescope qu'on a supposé d'abord en phase. Et voilà l'image d'une étoile unique. Et l'image est presque parfaite. Vous avez le fameux pic d'interférence au centre. Vous savez que dans un télescope classique, Ce pic est entouré d'anneaux de plus en plus faibles causés par la diffraction. Ici, comme l'ouverture n'est pas pleine, mais diluée, les anneaux sont brisés en petites taches qu'on appelle des speckles ou des tavelures, dues à des effets d'interférence. Bon, alors ici, même chose, mais on a mis des erreurs de phase sur chaque sous-ouverture. Chaque sous-ouverture, on a mis une erreur aléatoire de phase qui correspond à un dixième de longueur d'onde en chemin optique, c'est-à-dire un dixième de 360 degrés en phase, c'est-à-dire 36 degrés. Bon, alors vous voyez que c'est légèrement dégradé, mais à peine. Bon, ici, une demi-longueur d'onde, c'est-à-dire 180 degrés de phase. Bon, on voit que c'est dégradé davantage. À quoi on le voit ? Bah, déjà, on voit que la zone noire ici est plus noire. Cette zone noire est très précieuse, parce que si vous avez une planète de l'étoile ou une étoile faible à côté de la planète qui se forme là, le fait que la zone soit noire, ça aide à mieux la voir. Bon, et ici, c'est dégradé. Bon, ici, 0,8 longueur d'onde. Et on voit que c'est fortement dégradé. Le pic central a presque disparu. Il en reste un petit peu, mais il est beaucoup plus faible que là. Bon, ici, vous avez une longueur d'onde, c'est-à-dire des erreurs de phase de 360 degrés. Et le pic a presque entièrement disparu. Et là, vous avez 10 longueurs d'onde, ce qui fait à peu près 5 microns d'erreur de chemin optique, en lumière visible. Et vous voyez que le pic a complètement disparu. Bon. Alors, ce genre d'image est encore exploitable avec les techniques d'interférométrie des tavelures, basées sur le fait que si l'étoile a un compagnon et s'il y a une deuxième étoile, et bon, on aura la même distribution, mais légèrement décalée, et que l'ordinateur arrive à s'y retrouver en faisant des corrélations, même s'il y a plus de deux étoiles, 3, 10, etc. Bon, mais c'est beaucoup moins favorable que si on arrive à mettre en phase. Parce que là, vous avez vraiment une concentration de l'énergie qui vous permet de voir des compagnons faibles, par exemple. Bon, donc, nous prévoyons de rajouter de l'optique adaptative dans la nacelle. Alors, en pratique, quoi ça ressemblerait ? Eh bien, on trouve dans le commerce des petits gadgets comme ça, qui ressemblent à un timbre-poste. Mais si on regarde au microscope, on s'aperçoit qu'il y a 900 micro-miroirs. Chacun de ces petits hexagones est un micro-miroir qui fait 0,6 mm et qui peut s'incliner dans les deux sens et se pistonner, c'est-à-dire monter et descendre, quand il est piloté par l'ordinateur. Donc l'ordinateur pilote tous les 900 miroirs pour corriger les défauts d'inclinaison de l'onde et de phase. Bon, alors c'est mirobolant comme engin, c'est pas très très cher, et c'est extrêmement fiable, ça, c'est incroyable ces trucs-là. Et c'est piloté par effet électrostatique, c'est-à-dire il y a des électrodes, il y a des structures déformables, microstructures déformables, qui déplace le truc par effet de champ électrique. Il suffit d'envoyer une tension de quelques volts sur les électrodes et ça déforme la chose. Bon, donc un gadget comme ça, si on le met ici, alors ici, voilà le banc d'optique qui est sur la nacelle, où on fixe un certain nombre de lentilles et autre chose. Et là, dans cette partie-là du banc optique, il y a une image de la pupille, c'est-à-dire de la grande ouverture en bas. On s'arrange pour que cette image se forme sur le timbre-poste, là, celui-ci qu'on met ici. Là, c'est tout à l'échelle. Et on s'arrange pour avoir une caméra ici qui sert de senseur, ce qu'on appelle un senseur Shack-Hartmann, pour mesurer les défauts résiduels de l'onde. Il semble possible de mesurer à la fois les défauts d'inclinaison des morceaux d'onde et les défauts de piston. Et cela en déplaçant légèrement la grille. Alors, ceci est une grille de micro-lentilles qui forme une image sur la caméra ici. Bon, alors j'en arrive au point épineux de l'optique adaptative quand l'étoile n'est pas assez lumineuse pour qu'on voit, pour que la caméra dont je viens de parler voit quelque chose sur l'étoile, auquel cas il faut faire une étoile artificielle que l'on obtient en projetant un rayon de laser puissant le plus haut possible dans le ciel pour essayer de créer un point brillant dans le ciel. Alors, en pratique, on projette sur la couche de sodium qui se trouve à 92 km d'altitude et en utilisant un laser qui émet la longueur d'onde du sodium, la résonance, la diffusion résonante extrêmement efficace fait qu'avec une puissance modérée de laser, on a un point lumineux assez intense dans le ciel et on peut s'arranger pour que ce point soit juste à côté de l'étoile qu'on essaye d'observer pour que les rayons traversent la même partie de l'atmosphère et qu'on corrige bien ce qu'il faut corriger. Bon, alors, nous avons commencé quelques essais en laboratoire. Alors, la méthode existe, elle est exploitée sur les grands télescopes, notamment au télescope Keck. Et c'était un très grand succès dont j'ai parlé la dernière fois. Et nous essayons de la modifier un petit peu pour la rendre exploitable sur l'hypertélescope et même peut-être testable sur la manip UBI dans les années qui viennent. Bon, alors, en gros, l'idée, c'est que vous avez votre... Là, on a représenté par une lentille le miroir géant. On a mis un papier d'aluminium avec des petits trous d'aiguille devant pour simuler les petits miroirs, les petites ouvertures. Et imaginons qu'on ait ici, par exemple, quatre petits lasers formant chacun un point lumineux ici, et que notre lentille en projette une image sur la couche de sodium à 92 km d'altitude, eh bien, chacun des points, il va y avoir un peu de lumière qui revient de chacun des spots projetés là-haut. Alors, l'idée est qu'on s'arrange pour que cette grille de spots projetés là-haut corresponde, soit une projection de la grille de miroir ici, pour que les rayons du laser suivent le même chemin que les rayons de l'étoile. Les rayons de l'étoile, eux, ils viennent de très loin là-haut, ils sont parallèles, et ils viennent ici. Bon, et du fait qu'il y ait quatre lasers, en fait, ça veut dire que chaque laser va projeter son spot à travers quatre trous, et on peut s'arranger pour avoir une superposition des tâches ici qui permet de reconstruire une carte complète des défauts de phase. Alors, c'est un petit peu difficile à visualiser. Je vais montrer quelques images en trois dimensions, ce sera plus facile. Bon, je termine seulement ceci en précisant quelques points durs. Bon, le pilotage précis d'une nacelle à 100 mètres du sol. Obtenir une topographie précise de la vallée, alors ça, Jérôme Maillot va en parler tout à l'heure. Bon, alors, il y a des tas de problèmes idiots qu'on découvre. Par exemple, on s'est aperçu que tous les boulons qui étaient sur la nacelle se dévissaient après avoir passé quelques heures en haut. Et apparemment, c'est parce que le câble chante. Vous savez, une corde de violon, ça vibre. Ben là, ce câble de 800 mètres de long, lui aussi, il vibre comme une corde de violon. Et apparemment, c'est lui qui dévisse les boulons. Enfin, une fois qu'on le sait, c'est pas grave. Il suffit de coller un peu de chewing-gum ou autre chose pour amortir sur les boulons. comme autre problème... Les conditions de montagne, bon, c'est de la montagne à vache, mais il y a quand même des avalanches et des problèmes de sécurité. Une marmotte a mangé l'enrouleur en contreplaqué. un papillon de nuit était attiré par le laser et s'est mis dans le faisceau à la sortie du laser, on n'avait plus de lumière, on ne comprenait pas pourquoi. Alors, il y a les loups. Les loups, ils nous ont pas causé d'ennui. Et on espère même qu'ils nous débarrasseront des moutons, lesquels nous causent des tas d'ennuis. Ils bouffent les câbles, enfin, etc. Et puis, comme vous savez, ils portent des tas de maladies mortelles pour l'homme. On a quelques collègues qui ont attrapé la fièvre cul, là. Bon, et puis, il faut aussi qu'on fasse attention de... comme la partie nord là, est dans le parc du Mercantour, qui héberge des animaux exceptionnels comme le gypaète barbu, une espèce de vautour qui fait 2,50 m d'envergure, qui se nourrit de sa moelle, de moelle, et le tétralyre. Il nous faut, et que ces oiseaux ont la fâcheuse habitude de vouloir se tuer sur les câbles, il nous faut trouver un moyen de les protéger. Bon, et puis alors, il y a aussi des interférences volantes. Alors voilà des papillons dont les couleurs sont des effets d'interférence. Ce qu'on appelle l'effet Bragg, ou qu'on appelle maintenant les cristaux photoniques. C'est-à-dire ce sont des stratifications où la périodicité est de l'ordre d'une demi-longueur d'onde, de telle sorte que tous les reflets sur chacune des strates se renforcent par interférence. Et alors si on change l'angle, ça change de couleur. Par exemple, celui-là, sous un certain angle, il est doré. Si on change, il devient violet. Doré, il devient brillant violet. Donc, ça nous encourage à essayer de faire des interférences aussi. Bon, voilà un article récent sur la question. Bon, je vais arrêter là et je vais montrer pendant 2 minutes. Tu peux commencer à t'installer, Jérôme. Un peu de 3 dimensions. Comment ça s'appelle ce truc-là ? Alors voilà le à 3 dimensions les rayons laser qui servent l'étoile artificielle. Artificielle. Alors je vais essayer de faire tourner pour qu'on voit mieux, mais on voit quand même pas très bien. Quand même pas très bien, et puis ça donne de mal de mer. Voilà, donc ça c'est le laser. Il manque l'outil de déplacement, il a disparu, une histoire. Bon, ici, c'est le laser, et devant lequel il y a une trame de micro-lentilles, et une deuxième trame de micro-lentilles à focale plus courte, ce qui fait une trame de densifieur, une trame de petites lunettes de Galilée. Bon, ensuite, vous avez encore une lentille qui focalise une lentille, et puis contre la lentille, vous avez un réseau de diffraction croisé, ce qui fait que chaque spot ici donne naissance à 4 faisceaux divergent, qu'on voit, ce qui nous donne 4 spots ici, au foyer, et ce qui nous donne ensuite des groupes de rayons qui arrivent sur le miroir géant. Le miroir géant est symbolisé par cette lentille, et la couche de sodium, la voici, tiens, elle devrait être jaune. Et on voit que chaque point de la couche de sodium reçoit en principe 4 rayons produisant des interférences. Ces interférences sont vues d'en bas par la lumière qui revient par les mêmes trous et permettent de mesurer les défauts de phase. Bon, enfin, je renonce à expliquer ça correctement parce que c'est pas facile à visualiser. Je vais aussi montrer en 1 minute la nacelle. Que voici. Bon, normalement, le est à peu près dans le bon sens. Là, voilà les 2 miroirs, le miroir M2 et le miroir M3 qui servent à corriger l'aberration sphérique du miroir primaire. Le miroir M3, celui-ci, étant très déformé. Et cette paire de miroirs, évidemment, pourra être retirée si on parabolise le miroir primaire. Bon, vous voyez les fils. Actuellement, il y a 6 fils. Il y a 6 fils qui permettent de piloter la nacelle, d'une part sa position, d'autre part son orientation, comme une marionnette. Et puis là, vous avez le fameux pendule. Pour corriger la dérive de pupille, ici, la pièce jaune ici, et vous avez derrière le banc d'optique sur lequel se trouve le reste de l'optique. Cette poutre-là est le banc d'optique, et vous avez le reste de l'optique, y compris le petit miroir plan qui renvoie vers le foyer coudé ici, plus une caméra qui est en haut qui vise directement l'étoile pour vérifier l'alignement de la nacelle qui est censée viser l'étoile. Voilà, je vais m'arrêter là. Alors, j'avais prévu de montrer aussi une petite vidéo du web du site de la NASA qui montre depuis quelques jours un phénomène spectaculaire sur le Soleil et une pluie coronale, qui s'appelle une pluie coronale, une espèce de pluie de feu qui tombe sur le Soleil. C'est absolument spectaculaire. Maintenant, on ne va peut-être pas retarder Jérôme, enfin, ça dure 4 minutes. Hein ? Bon, alors allons-y. Ceci dit, n'importe qui peut le voir sur le web, aussi bien qu'ici. Hein ? On va être à la bourre, là, sinon. Oui. Bon, on fait un essai rapide, sinon... Bon, si vous avez des questions pendant ce temps-là... On attend que ça vienne. Oui ? Oui.
Et donc le sol monte et descend. Alors tant que les points d'ancrage sont proches, il ne peut pas y avoir trop de problèmes parce que vous arrivez à
faire. Oui.
Et à partir du moment où vous allez avoir une zone large,
oui.
N'essayez pas d'avoir des décalages assez extrêmes.
Si, des pentes, mais c'est très lent et c'est l'atmosphère est beaucoup plus gênante de ce point de vue. Alors, il y avait aussi un souci sur les vagues des tempêtes dans le golfe de Gascogne induisent dans les Alpes des oscillations du sol avec des pentes de l'ordre d'un centième de seconde d'arc et une fréquence de une période de 15 secondes de temps. Donc, ça pourrait avoir de l'effet, mais c'est quand même faible par rapport aux effets atmosphériques. Oui, alors voilà la pluie sur le soleil. Jérôme, si tu veux en profiter pour t'installer. Y a-t-il d'autres questions ? Alors, pourquoi je montre ça ? C'est parce que je me dis qu'un jour, on pourra voir peut-être le même genre de choses sur des étoiles avec les hypertélescopes. C'est pas de manaveil, mais enfin, en principe, ça... Ça devrait être possible, ça devrait devenir possible. Évidemment, ça permet de mieux comprendre comment fonctionnent les étoiles en question.